Donc j'arrive au passage dans le livre du prophète Zacharie. C'est le chapitre 11, tout le chapitre 11, qui commence par un petit paragraphe. Il réprimande le Liban. « Ouvre tes portes, Liban, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis de douleur si près, parce que le cèdre est tombé, parce que les puissants ont été abattus. Gémissez, chaînes de Bazan, car elle est à terre, la forêt impénétrable. » Écoutez le gémissement des bergers, car leur splendeur est anéantie. Écoutez le rugissement des lionceaux, car il est abattu l'orgueil du Jourdain. Voilà. Là, ça commence par moi, le Seigneur, je réprimande ceux qui sont responsables du peuple, les bergers. Et il compare les bergers aux cèdres du Liban, c'est-à-dire à ceux qu'on voit, parce qu'ils ont leur cime dépasse tous les autres arbres. Les chênes de Bazan aussi, c'est un synonyme de grandeur. Voilà. Moi, le Seigneur, je vais m'attaquer à votre grandeur, vous les grands de ce monde. Et parce que mes entrailles de miséricorde sont remuées jusqu'au plus profond de moi-même, on l'avait dit, hein, que quand Dieu envoie en mission, c'est qu'il est tellement remué au fond de lui-même qu'il veut sauver des personnes. Et c'est ça qui va se passer. Et dans ce qu'il suit, Dieu va susciter un berger pour pouvoir reprendre l'autorité sur ce peuple, puisque les puissants qui s'en occupaient n'en étaient plus dignes, en fait, d'être chef de ce peuple-là. Et après, on a un paragraphe dans ma Bible, c'est intitulé « Allégorie des deux bergers ». Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur mon Dieu, fais paître ces brebis vouées à l'abattoir, elles que leurs acheteurs achètent impunément, elles que l'on vend en disant « Béni soit le Seigneur, me voilà devenu riche », tandis que leur berger n'éprouve pour elles aucune pitié. Un peuple voué à l'abattoir. Donc des brebis qui ont des responsables qui s'en occupent pour les engraisser et les manger, quoi. C'est vraiment, c'est le démon qui exerce son autorité, en fait, sur des personnes qui sont éloignées du Seigneur, qui sont comme des brebis perdues. Et le Seigneur va dire, moi, je voudrais ramener ces personnes-là et je vais envoyer des personnes en mission, comme bergers. Non, je n'aurai plus pitié des habitants de la terre, oracle du Seigneur. En effet, je vais livrer les hommes chacun aux mains de son voisin et de son roi. Alors, je fis donc paître le troupeau que les trafiquants vouaient à l'abattoir, c'est-à-dire les mercenaires du peuple qui voulaient engraisser les brebis pour les manger. Je fis donc paître le troupeau. Alors là, c'est à la fois le Seigneur qui parle et le prophète Zacharie, qui est le prophète qui reçoit du Seigneur, et il dit « je » en parlant à la fois du Seigneur et de lui-même, le prophète qui est envoyé pour s'occuper du troupeau. Je pris deux houlettes. Donc deux bâtons de berger. J'appelai la première faveur et la seconde entente, et je me mis à paître le troupeau. Et donc là, on a la première houlette qui s'appelle faveur. Faveur, selon les traductions, on trouve aussi douceur, suavité. C'est le bâton qu'on utilise avec toute la douceur dont on sait faire preuve. En général, alors dans la tradition juive, il y a deux bâtons. Il y en a un qui est un bâton très allongé. Je pense que c'est celui-là qui est désigné par cette première houlette. Le berger s'appuie dessus. Donc il est fait preuve d'une infinie patience. Il utilise ce bâton pour barrer le mauvais passage aux brebis qui, à un moment, vont s'écarter du chemin parce qu'il y a un ravin, parce qu'il y a un fossé boueux, parce que la brebis risque de se perdre, etc. Le berger, il utilise sa voix. Utiliser sa voix avec douceur, c'est aussi comme utiliser cette première houlette. Dans la tradition juive, en fait, il est raconté que les bergers, quand ils dormaient au même endroit, parce qu'ils se réunissaient, il y avait les chiens de berger, et ça gardait le camp. Et le matin, pour partir avec leurs brebis, ils les connaissaient toutes par leur nom, c'est ce que décrit Jésus, parce que peut-être qu'elles avaient chacune un signe distinctif, et elles avaient un nom en rapport avec ce signe distinctif. Ils appelaient les brebis par leur nom, et c'est pour ça que ça séparait les différents troupeaux, pour que les bergers aillent emmener chacun leur troupeau. Voilà. Appeler par le nom, c'est pas forcément quand on est perdu. Ça peut être simplement le matin dans notre vie de tous les jours où les personnes qui exercent une autorité sur nous vont nous appeler par notre nom, vont nous demander des choses. Voilà. Et donc, utiliser ce premier bâton, c'est s'occuper des personnes avec sa voix, avec toute la douceur dont on sait faire preuve, c'est pardonner, c'est réussir à ne jamais perdre patience avec les brebis qui nous sont confiées. Ça, c'est la première houlette. Et on a des choses qui sont dites. C'est que il se met à paître le troupeau, Zacharie, et puis et il est dit « Je supprimais les trois bergers en un seul mois ». Donc on imagine que le Seigneur lui donne la grâce d'écarter des mauvais pasteurs qui restent, parce que bah, des chiens de berger sans doute, qui restent des anciens bergers, quoi, des personnes qui ont une ascendance sur les gens qui nous sont confiés et une ascendance néfaste, quoi. Voilà. Donc ça va être pour le président, ça serait, je sais pas, peut-être les députés, ça serait le Sénat, voilà. Mais on peut le voir à chaque échelle. Ça va être faire en sorte d'avoir le plus de personnes possibles de son parti. Ou dans le domaine spirituel, ça va être d'écarter des esprits qui influencent négativement le peuple qui nous est confié, quoi. Ils ont pris des mauvaises habitudes, donc nous, on est là pour les aider. Et le Seigneur nous fait la grâce d'écarter ces trois bergers. Je perdis patience avec elles, et elles aussi, de leur côté, se lassèrent de moi. Donc là, c'est le troupeau qui en a marre du nouveau berger. Alors je déclarais, je ne vous mènerai plus paître. Celle qui doit mourir, qu'elle meure. Celle qui doit disparaître, qu'elle disparaisse. Celles qui survivront, qu'elles se dévorent entre elles. Alors je saisis ma houlette faveur, je la brisai pour rompre l'accord auquel j'avais soumis tous les peuples. Donc il prend cette première houlette, qui est la grande houlette allongée de la miséricorde, et il la brise, c'est-à-dire qu'il arrête d'être miséricordieux avec son troupeau. Il fut dénoncé en ce jour-là, et les trafiquants du troupeau qui m'observaient reconnurent que c'était là une parole du Seigneur. Donc, on imagine qu'il y a encore des personnes qui avant exerçaient l'autorité et ils ont été touchés par quelque chose parce qu'on a arrêté d'être miséricordieux avec ceux qui nous étaient confiés. Voilà. Alors c'est un peu dur à comprendre parce que là c'est un peu conceptuel hein, pour l'instant, parce que ce passage explique vraiment toutes les étapes lorsqu'on exerce l'autorité sur des personnes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur ses enfants par exemple, faire ce cycle-là de manière régulière, ou si on prend une mission d'église, peut-être que ça va être fait sur une période plus longue, ça va toujours se passer de cette manière-là, en fait. Voilà. Et je vais montrer, à travers différents passages, comment ce schéma-là se retrouve, et comment le Seigneur intervient avec ces plans un peu mystérieux, où il y a, dans un premier temps, l'exercice de la miséricorde, pour les gens qui nous sont confiés, et avec ces trois bergers qu'on écarte, et puis après le fait qu'ils se laissent toucher, et puis le berger brise la première houlette, il rompt l'accord auquel il avait soumis tous les peuples, c'est-à-dire que le fait d'arrêter d'être miséricordieux, ça expose nos brebis à des problèmes extérieurs. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, les gens dont on était responsable étaient protégés d'un certain nombre de choses extérieures. Donc imaginons nos enfants, par exemple, je vais arrêter d'être miséricordieux et je vais passer par d'autres moyens avec eux. Ils vont être moins protégés contre, par exemple, des amis qui vont les entraîner à faire des choses. Vous voyez, c'est-à-dire que le Seigneur va permettre que des choses dont ils étaient protégés avant se passent pour qu'ils se rendent compte et peut-être qu'ils touchent le fond de la piscine. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc là, je leur déclarais, si bon vous semble, payez-moi mon salaire, sinon laissez-le. Donc il y a le berger qui s'adresse aux brebis en disant, bah, donnez-moi quelque chose, votre laine, votre lait, parce que normalement vous êtes censé me donner quelque chose, parce que moi je suis votre berger, quoi. Je suis celui qui exerce une autorité sur vous, donc vous êtes censé me rendre de l'honneur, m'aider, voilà, parce que je suis votre parent et puis je vieillis, vous êtes censé me respecter parce que je suis votre prof et vous êtes censé vous taire pendant que je parle, voilà. Et là, ils demandent un salaire, et de fait, ils payèrent mon salaire, 30 cycles d'argent, donc c'est le prix d'un esclave, qui c'est rien du tout, voilà, parce qu'on achetait les esclaves pour rien à l'époque. Le berger, qui est Zacharie, est dépité, et le Seigneur me dit « Jette-le au fondeur, ce joli prix auquel je fus estimé par eux. Je pris les 30 cycles d'argent et les jetai au fondeur, dans la maison du Seigneur. » Donc, le fondeur, c'est un gars, c'est un peu MacGyver, il arrive à... C'est Emmaüs, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'il arrive à même avec un truc qui n'a pas de valeur, à en faire quelque chose, voilà. Il va en fabriquer... Lui, le fondeur, bah, il va faire fondre ça pour fabriquer des chandeliers, pour faire des bougeoirs, pour faire je sais pas quoi. Voilà, le fondeur, c'est ça. L'histoire de Jésus, il y a eu ça qui s'est accompli avec Judas, parce qu'il a acheté Jésus pour 30 pièces, et après il a dit non, je veux plus vendre Jésus, puis les prêtres ont refusé de lui pardonner, et puis Judas a jeté ça dans le temple, et les prêtres ont dit, bah, on va s'en servir pour acheter un champ pour enterrer les étrangers qui n'ont pas les moyens de se faire inhumer. Et donc on voit que le Seigneur, dans sa miséricorde, a accompli cette parole pour montrer que les brebis indignes, qui étaient le peuple d'Israël, hein, qui était normalement, qui aurait dû être sous l'autorité du Christ, eh bien, ont eux-mêmes donné un salaire indécent au Christ, parce qu'ils ont été, ils ne l'ont pas aimé, ils ne lui ont donné que de la haine, mais le peu d'amour qu'ils ont donné, eh bien, Dieu s'en est servi pour faire quelque chose d'utile. Voilà, c'est ça le... Vous voyez ? Et donc, on a... Si mes enfants, ils sont ingrats, eh bien, dans les faits, si j'offre au Seigneur, parce que le fondeur, c'est le Seigneur, ou ça peut être, moi, je dirais Saint-Joseph ou la Vierge Marie, si j'offre au Seigneur l'ingratitude de mes enfants en disant, Seigneur, fais que le peu que mes enfants... me donne comme amour, ou même si j'ai du mal à le voir, je te le donne, et ben, le Seigneur va en faire quelque chose. Voilà, c'est ça les 30 pièces d'argent. Au moment où on arrête d'être miséricordieux avec eux, où on s'énerve, on dit, bon, j'ai beau être doux avec vous, ça ne marche pas, je vais prendre les grands moyens. Voilà.